I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cesse.
Raconte ça.
Cesse, raconte sa life, épisode 6. Les expats répondent à vos clichés sur les États-Unis et les Américains. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouvel épisode, mais c'est pas moi qui vais raconter ma life. Ce sont les expatriés qui vont répondre à vos clichés que vous m'avez envoyés sur les États-Unis et les Américains. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a des expats un peu de partout, alors pas mal de Californie, c'est vrai, parce que j'ai pas mal de connaissances qui ont contribué à ce podcast. Donc vous allez voir, en fait, tout simplement, il y a le cliché de la personne et s'ensuit la réponse de l'expat. Et entre les différents clichés, il y a une petite musique qui est celle-ci, pour vous indiquer qu'on change de cliché. Alors les clichés n'ont rien à voir les uns avec les autres, sauf les derniers tout à la fin. Vous allez voir, il y a une petite corrélation, parce que c'est un peu sur le même thème, parce que c'est un thème que j'ai énormément reçu. Il y a des clichés positifs, il y a des clichés négatifs, il y a des réponses où les expats sont plutôt d'accord, ou d'autres où ils sont pas d'accord. Voilà, c'est un peu en fonction de l'expérience de chacun. Je vais le nuancer ici, mais ils l'ont très bien nuancé aussi. Évidemment, ça dépend énormément des États. Les États-Unis, c'est très grand. Il y a beaucoup de différences entre les États. Moi, il y a des choses dans les réponses des expats avec lesquelles je suis absolument d'accord et des choses qu'ici, je ne vis pas du tout pareil. Donc, c'est vraiment propre à chacun, à chaque État et à chaque expérience. Je vous laisse avec ça et j'espère que ça vous plaira.
Bonjour, je m'appelle Luna et j'ai l'impression que tous les Américains s'habillent mal.
Salut Luna! Alors, je me présente, moi c'est Anaïs, j'habite à Los Angeles, en Californie depuis 4 ans et demi, et j'ai aussi vécu à Londres pendant 4 ans. Je précise ça parce que je pense que ça me permet d'avoir un point de comparaison, où par contre, à Londres, la mode c'est du sérieux, ou plutôt du fun. Les Américains s'habillent, tous les Américains s'habillent mal, je dirais, juste ils s'habillent. Ça reste basique, utile, droit au but et confortable. Il y a moins un phénomène de mode, c'est-à-dire que on s'habille comme ça nous correspond et comme on a envie. Les Américains, je trouve qu'ils se prennent pas la tête sur l'apparence et ils jugent moins, donc ils se sentent moins jugés. Et donc quand on se sent moins jugé, on est plus libre, et libre de s'habiller comme bon nous chante. Par exemple, à l'école, ça se retrouve aussi. Et je parle pas des écoles où il y a un uniforme, mais j'ai vu des enfants venir en grande robe de princesse, parce que ce jour-là, elles voulaient s'habiller en princesse, ou avec des chaussettes dépareillées, parce que l'enfant avait envie de mettre des chaussettes dépareillées, et les parents suivent, et les parents ne le jugent pas, et c'est un petit peu, bon bah, tu t'habilles comme t'as envie, on est libre, etc. Bon, j'habite Los Angeles, c'est peut-être pas pareil dans toutes les villes, mais en tout cas, ici, c'est comme ça. Et ça en dit long aussi sur l'état d'esprit général, je trouve. Mais il n'y a pas de règles. Ça m'est arrivé aussi pendant que je faisais mes courses de voir des gens en crocs. Mais ça choque pas. Voilà, c'est venez comme vous êtes. Tu peux croiser aussi ton voisin en pyjama avec ses chaussons lapins et avoir une discussion sérieuse. Ça veut dire que au début ça surprend et après petit à petit tu fais plus attention et puis tu y prends goût et puis même toi aussi éventuellement tu sors avec tes chaussons lapin et tu discutes en pyjama avec ton voisin. Il y a aussi une façon de s'habiller différente suivant les régions. Par exemple, le style vestimentaire n'est pas le même en Californie ou à New York ou au Texas ou au Nevada et même En Californie, suivant les villes, le style est différent. On s'habille pas pareil à LA qu'on va s'habiller à San Francisco. Ça va avec le mode de vie. Il y a une mode un peu plus hippie ou une mode un peu plus bobo. Et ça va aussi avec le climat, forcément. On s'habille pas pareil à New York qu'en Californie où il fait tout le temps beau. C'est vraiment quand on revient en France qu'on réalise, par contre, à quel point les gens sont parfaitement habillés, l'importance du détail, tout est parfait, tout est nickel. Et les Français, clairement, on peut pas le discuter, ils ont la classe.
Hello Nicila, moi c'est Médinée. J'aimerais savoir s'il est vrai que les Américains n'ont pas d'assurance santé. Thank you.
Hello, je m'appelle Emily, mon compte Instagram c'est Milouem et je suis expatriée en Arkansas depuis 2 ans avec mon mari Sébastien et nos 3 filles, Erin, Mila et Romy. Aujourd'hui, je vais répondre à la question ou au cliché, les Américains n'ont pas d'assurance santé. Alors, cliché ou pas cliché? Bon, on va déjà revenir sur le fonctionnement du système de santé américain. Premièrement, le système de santé donc est majoritairement privatisé, c'est-à-dire que les Américains adhèrent contre un abonnement mensuel à des insurances. Donc c'est un petit peu le même principe que les mutuelles, sauf que la majorité des coûts est quand même plus élevée pour l'adhésion et les remboursements ne couvrent pas toujours la totalité des frais. Ensuite, il existe quelques aides gouvernementales pour les personnes en difficulté, pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes handicapées. Donc alors, existe-t-il des personnes qui n'ont ni d'aide gouvernementale, ni d'adhésion aux insurances? Oui, il y en a. Ça représente environ 15% de la population américaine. Donc, on peut dire que c'est un cliché parce que 15%, clairement, c'est pas la majorité des Américains. Voilà. Toutefois, pourquoi en fait la majorité des Américains adhèrent à ces assurances santé, même si elles sont très chères? C'est parce que tout simplement les frais médicaux sont très élevés et que s'il fallait les payer, ce serait un petit peu compliqué. Comme une jambe cassée, ça peut monter à plus de 7 000 dollars. 3 jours d'hospitalisation, ce serait environ 30 000 dollars. Et puis il y a beaucoup de frais qui sont très 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 élevés également, notamment au niveau dentaire. Donc c'est vraiment pas possible en plus d'adhérer à une assurance santé après avoir eu le problème ou quand on vient de déclarer une maladie pour se faire rembourser a posteriori parce que les assurances santé ne l'acceptent pas. Donc voilà, il n'y a clairement pas trop trop le choix. Pour conclure, ce qu'on peut se dire, c'est que quand même, le fonctionnement du système de santé français est plutôt pas mal et ce serait bien que certains pays s'en inspirent. Voilà, merci.
Hello Cécile, moi c'est Lou. Je vais un petit peu plomber l'ambiance, désolée, mais à l'occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, est-ce que le cliché de l'Américain, entre guillemets, anti-musulman, est parfois encore présente? Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que ça a été le cas peut-être juste après les attentats et que ce n'est plus le cas 20 ans après? Voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Merci.
Salut, donc moi c'est Vanessa, ça fait donc 10 ans que je suis en Floride. Alors concernant le cliché de l'Américain qui serait anti-musulman, donc bon, on va pas généraliser sur tous les États-Unis qui sont immenses. Après le 11 septembre, mon mari qui était déjà ici donc a senti en effet que le regard avait changé, qu'il avait plus cette, il était là donc 1 an avant, qu'il avait plus cette nonchalance, ce côté tu sais, d'American Dream, tu pouvais venir ici, n'importe qui. Après ça, les regards ont changé. Il l'a ressenti. Ce n'a pas été des remarques ou des actes vraiment anti-racisme contre lui, mais il a senti que ça avait changé et que depuis, ça a toujours été différent. Après, donc moi, ça fait 10 ans que je suis ici. On vit dans un endroit en Floride où il y a vraiment de tous les pays, de toutes les nationalités, toutes les religions et on vit vraiment dans une harmonie, on peut dire. Chacun fait ce qu'il veut, tout le monde s'en fiche, quoi, en fait. Donc, là où on est, il y a à peu près plus de 5 mosquées dans le coin. Il y a des Pakistanais, donc une mosquée vraiment plus pakistanaise. Après, tu as des Maghrébins, des Marocains, Tunisiens, il y a une grande communauté marocaine. Et puis, après, des gens du Middle East. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'acte anti-musulman. Lorsqu'il y a les prières le vendredi, ou les prières de l'Aïd, eh bien, il y a toujours un policier qui va être devant la mosquée pour surveiller en cas où. Mais il y a toujours aussi un autre policier qui est là pour aider à la circulation. Mais toujours dans la bienveillance. J'ai jamais eu écho ici de où on vit d'actes anti-musulmans. Tu peux aller dans les magasins, il y a beaucoup de jeunes dames voilées qui travaillent en caisse, au service accueil ou à d'autres postes. Et même des jeunes dames américaines converties. Donc, dans la bienveillance. Après, je parle vraiment dans où je vis. Peut-être même dans la Floride, dans d'autres endroits, c'est différent. Mais après, tu peux aller dans des villes vraiment reculées où ils n'ont jamais vu d'étrangers. Ça va sûrement être différent. Mais comparé à la France, je trouve, de ce que j'entends en France avec toujours ces remarques anti-islam, anti-musulmans, je trouve qu'en France, ce serait sûrement plus, quoi, en fait. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Bonjour Cécile, je suis Lucie, je vis pas très loin de là où tu as grandi. Et pour moi, un des clichés les plus présents sur les Américains sont qu'ils sont très pieux, que la religion est très présente dans leur quotidien. Vrai ou faux ?
Coucou, alors moi c'est Fanny, j'habite dans l'état du Wisconsin aux États-Unis depuis 5 ans avec ma petite famille. Alors oui, clairement, je pense qu'on peut dire que les Américains sont croyants et que la religion a une place importante dans leur vie. Je pense qu'on peut limite en faire une généralité, même si évidemment tout le monde ne croit pas en Dieu aux États-Unis. On peut voir le président qui porte serment sur la Bible, la devise « In God we trust », le pledge que les enfants récitent à l'école avec God qui est toujours présent. Enfin bon, bref, la religion a vraiment une place importante dans la vie des Américains. Dans ma petite ville de 10 000 habitants ici, il y a environ une dizaine de lieux cultes. C'est impressionnant. La première question que moi, on m'a posée en tout cas et que j'ai toujours notée en arrivant aux États-Unis quand j'ai commencé à côtoyer des Américains, c'était à quelle église tu vas, en gros. C'est vraiment une des questions qui revient vite. Donc voilà, c'est pour dire que oui, clairement, ici, la majorité des personnes sont croyantes. Alors, il y a à peu près toutes les religions, hein. Il y a des protestants, des catholiques, les églises évangélistes et autres. Mais je pense que, il me semble avoir lu récemment qu'il y a à peu près 70% des Américains qui se disent croyants. Et je crois que c'est même un peu plus ces dernières années. Donc voilà, ouais, clairement, je pense qu'on peut dire que la religion a une place importante. Et pourtant, les États-Unis, ça reste un État laïque. Hein, alors, pas établi sur les mêmes principes de laïcité qu'en France, par exemple. Mais l'État est bien dissocié des églises, de la religion. Et il a pour but quand même de garantir la laïcité, le respect des religions. Je crois qu'aux États-Unis, il y a une mise en avant de la religion qui fait que dans la vie des Américains, c'est très important, mais la laïcité garantit le respect de ces religions-là et de toutes les religions. Il n'y a pas une mise en avant de la religion. Il y a une mise en avant, en fait, de la religion globalement, parce que ça fait clairement partie des Américains, mais il y a pas de mise en avant d'une religion particulière, donc il y a vraiment un respect de toutes les religions. Voilà. Donc on affiche ses croyances, on ose dire que on est fier de d'afficher ses croyances ici, et il y a quand même un certain respect des religions. Alors évidemment, on ne généralisera pas, mais clairement, oui, il y a un respect de toutes les religions ici.
Bonjour ou bonsoir Cécile, moi c'est Marion, j'ai 43 ans, je vis à Nîmes. Pour moi, le cliché que j'ai sur les Américains, c'est qu'ils ne sont pas assez cultivés sur leur pays et sur ce qui se passe en dehors de leur pays. Voilà.
Alors bonjour Cécile, je m'appelle Pauline, j'habite en Californie depuis presque 8 ans maintenant. Et j'ai choisi le cliché sur les Américains ne sont pas très cultivés à la fois sur leur pays et sur l'extérieur. Alors, c'est un cliché qui, moi, je pense, est partiellement vrai. Mais c'est dû à différentes choses qui sont complètement différentes de la France, par exemple, que je connais bien puisque je suis française, et des politiques européennes qui sont complètement différentes à ce qu'on peut vivre ici aux États-Unis. Donc la culture, c'est pas vraiment mis en avant aux États-Unis, les musées, les expositions, les choses comme ça, c'est très très cher. Donc c'est pas accessible. C'est pas accessible, donc il y a très peu de gens qui y ont un intérêt et qui vont aller vers ce genre contenu, ce qui est très différent d'avec la France où les musées, c'est pratiquement gratuit et beaucoup plus accessible à tous. Ensuite, il y a des exceptions culturelles françaises qui sont vraiment très fortes, donc en France. Par exemple, il y a des politiques générales, par exemple le 1% culture, qui est vraiment mis en avant, ce sont des politiques nationales. Il y a un réel vouloir, une réelle volonté des politiques françaises à mettre en avant la culture, ce qui n'est pas le cas vraiment aux États-Unis, puisque la culture est avant tout du domaine du privé, ce qui n'est pas forcément, qui n'est pas le cas généralement en France, c'est plutôt du domaine du public et donc beaucoup plus accessible. En plus, on va être clair que au niveau de l'école, tout ce qui est sciences sociales, c'est pas très poussé, ça englobe énormément de matières, l'histoire, la géographie, l'économie, les choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de particularité sur la culture et particulièrement l'histoire et la géographie qui sont assez mises de côté. Et si l'enseignant ne le fait pas, en général, ça va être assez léger. Mais j'ai bon espoir, les programmes étant en train de changer, que ce cliché dans quelques années n'existe plus et que les Américains soient vus comme des gens très cultivés et ayant une très grande ouverture sur le monde. Merci.
Salut Cécile, moi c'est Camille, j'ai 16 ans et j'habite dans le sud-ouest de la France. Alors pour moi, le plus gros cliché sur les États-Unis, qui est un cliché positif, parce que faut pas pensez que au négatif, c'est aux États-Unis, les personnes sont beaucoup plus optimistes, valorisent beaucoup plus le positif. C'est vrai qu'en France, on est très dans le négatif, dans le pessimisme. On se dit toujours que voilà, tout est négatif, tout ça, on broie beaucoup du noir, on râle beaucoup aussi. Et j'ai toujours entendu qu'aux États-Unis, vous étiez beaucoup plus ouvert, vous étiez beaucoup plus en mode à valoriser quand on fait des bonnes choses, des bonnes actions, etc. Chose qui n'est pas vraiment le cas en France. Et voilà, tout simplement valoriser, être toujours dans l'optimisme, toujours se dire ça va aller, etc. Et donc je voulais savoir si c'était simplement une rumeur ou si tout simplement ça s'avérait vrai et que vraiment les Américains étaient beaucoup plus c'est bon, ça va aller, tout va bien se passer, ou alors à valoriser tout simplement les bonnes actions, etc. Voilà, gros bisous à vous trois, à Buddy, à Lila, au poisson intérieur, au poisson extérieur, bisous à toute la famille.
Salut, moi c'est Amandine, j'habite en Californie, dans la baie de San Francisco depuis 5 ans, et j'ai choisi le cliché comme quoi les Américains sont toujours super positifs et optimistes. Et c'est un cliché qui est plutôt vrai. On le voit beaucoup à l'école, où les enfants sont plutôt encouragés que critiqués. On va essayer d'adapter et de les soutenir au maximum. C'est beaucoup de « good job »,« well done ». Alors, ça, son défaut, parfois, ils ont un peu de mal après avec la critique, surtout... Mes enfants, ils sont dans un système franco-américain et on sent tout de suite la différence avec les enseignants français qui sont plus carrés, même si ici ils sont extraordinairement bienveillants, parce que le mélange des deux cultures, ça leur apporte énormément autant aux enseignants qu'aux enfants. Et ce côté bienveillant, tu le retrouves dans la rue, où les gens sont super positifs sur ce qu'ils vont te dire. Tu peux avoir quelqu'un qui t'aborde et qui te dit « j'adore ta tenue, je te trouve super jolie, juste comme ça, voilà, sans arrière-pensée et de manière super positive. Les Français ici, on est super réputés pour être des râleurs, ce qui n'est pas faux. Ici, les gens vont plutôt dire, ok, aujourd'hui j'ai besoin de vent, donc sortir ce qui va pas, mais ils vont toujours essayer de trouver une solution plutôt que de rester sur ce côté négatif. Et les gens vont majoritairement leur apporter du soutien. Et si par exemple dans des forums comme des trucs qu'on a, des trucs de voisinage, Nextdoor, etc., s'il y a des gens qui se montrent plutôt un peu critiques ou agressifs, parce que c'est quand même les méfaits des réseaux sociaux se retrouvent ici autant qu'en France ou où que ce soit d'ailleurs, les gens ont tendance à être un poil plus facilement agressifs. Il y aura toujours quelqu'un qui va intervenir en disant ok. Il n'y a pas besoin d'être aussi antipathique, il n'y a pas besoin d'être agressif, on est capable de parler de manière courtoise. Voilà. Les gens essayent toujours de retomber sur du positif. Et ils sont beaucoup sur le faut être grateful, donc avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive et pour ce qui nous entoure. Et je pense que ça aide beaucoup dans leur quotidien pour ce côté positif, pour rebondir.
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle X, nous allons garder un petit peu d'anonymat. J'ai 24 ans et je suis maîtresse. Donc c'est ma dernière année de formation, mais je suis tout de même en responsabilité dans une classe. J'ai une classe de 25 petits bouts de 2 et 3 ans qui on est encore au début de l'année, donc nous apprenons encore à faire connaissance. Et le cliché que j'ai sur les États-Unis, c'est donc par rapport à l'éducation scolaire, c'est qu'aux États-Unis, c'est quand même quelque chose d'assez light, car ils ont très peu d'heures, les journées sont courtes, le programme est différent. Quand en France, on fait de meilleurs élèves, avec des gros guillemets, hein, car voilà, ils ont l'obligation d'être à l'école toute la journée, qu'il y a beaucoup plus d'heures, qu'il y a des programmes plus chargés. Mais de ce qu'on en voit, notamment à travers tes vidéos et d'autres vidéos en fait de personnes expatriées, les élèves aux États-Unis ont l'air quand même plus épanouis et au final ont les mêmes connaissances. Donc en fait, pourquoi a-t-on ce cliché sur les États-Unis de cette école qui est très light, qui est très fun et qui n'est pas très scolaire, entre guillemets, toujours, hein, alors que concrètement en France, l'école a énormément de défauts également. Et je le dis en étant de l'intérieur, en étant maîtresse également. Voilà, pourquoi ce cliché-là de l'école aux États-Unis est beaucoup plus facile qu'en France?
Bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'habite en Californie depuis 6 ans maintenant. Pour répondre au cliché, je vais prendre l'exemple de mon fils de 7 ans qui est en second grade, l'équivalent du CE1 en France. Donc le cliché, c'est l'école est plus light, plus facile, moins d'heures, moins scolaire. Alors, l'école est plus light, le programme en CE1, il ne semble pas trop chargé. Ils ont 20 minutes de lecture obligatoire tous les soirs. Et en classe, ils balayent tous les domaines, donc les maths, l'écriture, ils apprennent à mesurer les choses. Ils ont de l'art, de la musique et du sport. L'école est plus facile, peut-être parce qu'ils n'ont pas de devoirs ou alors très peu. Mon fils, lui, il a une fiche sous forme d'un menu avec 20 activités et d'en choisir 15 à faire et à rendre à la maîtresse à la fin du mois. Donc c'est une activité par soir, donc un devoir par soir et c'est des activités diverses. Y a pas, ici, il n'y a pas de récitation de leçons par cœur. Voilà, donc les devoirs, on passe pas deux heures dessus en tout cas. L'école est moins scolaire. L'apprentissage ici se passe à travers les activités ludiques, qui est donc ce qui est différent en France. En France, on est assis à une table et on doit écouter la maîtresse qui fait la leçon. Ici, les enfants, en tout cas dans l'école de mon fils, ils sont donc assis à une table individuelle, mais par groupe de 6 élèves. Donc les tables sont regroupées par 6 et en fait ils font des activités ensemble. Voilà. L'école est donc moins d'heures, Donc oui, ici, les enfants quittent beaucoup plus tôt. Moi, mon fils, il commence à 8h30 et il termine à 14h30 avec deux récrés et une pause déj. Par contre, la pause déj est beaucoup plus courte qu'en France. Donc le fait de quitter plus tôt l'école, ça laisse aux enfants le temps de faire des activités extrascolaires. Certains enfants vont même à des clubs d'art, de sciences ou même de sport. Et ça permet aux enfants en fait d'avoir plus de temps l'après-midi pour s'amuser ou faire autre chose. C'est pas le cas pour mon fils. Je le récupère à la sortie de l'école et il rentre à la maison directement. Il fait pas d'activité extrascolaire. Ah oui, je voulais aussi préciser qu'ils avaient moins d'heures de classe, mais ils ont aussi moins de vacances scolaires. Donc au final, ça se vaut niveau nombre d'heures annuelles. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu aux clichés sur les Américains. Merci.
Bonjour, moi c'est Harmonie, j'ai 32 ans et je pense que les Américains conduisent que des grosses voitures. Voilà.
Hello à tous, moi c'est Virginie, j'habite en Californie depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je vais répondre au cliché « les Américains ne conduisent que des grosses voitures ». Alors, est-ce que c'est un cliché ou pas? Pas du tout, c'est vraiment les US, c'est vraiment le pays des grosses voitures. Ici, voilà, les pick-up sont rois, vous savez, hein, les 4x4, c'est un mélange de 4x4 et d'utilitaire avec le coffre ouvert. On voit que ça ici, il y a des Ford, des Chevrolet, il y en a vraiment partout. Il y a aussi pas mal de SUV. Ouais, pick-up et SUV, c'est vraiment les voitures qu'on voit le plus. On voit très peu de compacts, très peu de petites voitures aussi. Par exemple, la Fiat 500 ou la Smart ici, c'est vraiment une exception. On n'en voit quasiment jamais. Pour vous donner un exemple, nous, on est passé, quand on est arrivé ici, on est passé donc en France d'une petite Honda à une Tiguan. En arrivant aux États-Unis, on pensait voilà, vraiment avoir une super grande voiture et en fait, on s'est rendu compte que la voiture était toute petite à côté des autres. Voilà, on se sent un peu ridicule parfois. Peut-être qu'on changera, mais en tout cas, ouais, ça fait partie des petites voitures ici. Ensuite, en Californie, ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il y a de plus en plus de Tesla. Donc ça, vraiment, il y en a partout ici. Quand on va faire les courses, par exemple, on voit que dans les parkings, il y a des stations de rechargement partout. Donc ça, voilà, c'est vraiment une voiture aussi qu'on voit beaucoup. Mais le pick-up est quand même la voiture la plus présente. Après, voilà, qu'est-ce qui fait que ils peuvent avoir des grosses voitures parce que tout simplement tout est adapté en fait ici. Voilà, la taille des parkings est juste, c'est juste énorme. La galère qu'on a quand on est à Paris pour se garer ici, on la connaît pas du tout. Les places sont immenses, elles sont hyper larges, elles sont profondes, donc aucun problème pour ouvrir les portières en grand. Les routes sont hyper grandes aussi. C'est pas rare, voilà, d'être sur l'autoroute et d'avoir 6 voies, c'est quand même assez courant. C'est également le pays du drive-thru, donc tout se fait depuis sa voiture. On peut aller chercher son fast-food, on peut déposer les enfants à l'école depuis sa voiture. Il y a un système de dépose en fait. On peut aller chercher n'importe quoi en fait en voiture. Les Américains, ils vivent dans leur voiture vraiment, quoi. Ils mangent dans leur voiture. On utilise la voiture, l'arrière de la voiture du pick-up pour aller au cinéma en plein air, par exemple. Donc, ils installent les couvertures à l'arrière et puis on regarde le film depuis la voiture. Enfin, voilà, c'est vraiment le pays des grosses voitures. Après, j'imagine que ça dépend aussi beaucoup des États. Nous, en Californie, c'est un peu varié. Mais on a remarqué au cours de nos road trips que plus on s'éloignait en fait des grosses villes, plus il y avait un nombre de pick-up important. Donc j'imagine aussi que ça dépend des États. Voilà, après j'étais curieuse, j'ai regardé un petit peu des chiffres et en fait, en 2020, sur 15 millions de voitures immatriculées aux États-Unis, il y a quand même 12 millions de voitures qui sont des SUV ou des pick-up en fait. Donc c'est juste énorme. Voilà, à bientôt, ciao.
Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 51 ans. C'est avec plaisir, Cécile, que je te suis. Et pour moi, mon premier cliché sur les Américains, ce serait le patriotisme. Ce sont de vrais patriotes. Bonne journée.
Salut, c'est Max. J'habite en Californie depuis plus de 2 ans. Et je suis donc là pour répondre au cliché, les Américains sont très patriotes. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas trop un cliché. En tout cas, on m'a parlé de ce que je connais et donc de mon expérience en Californie. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je trouve que ça n'est pas un cliché. Je vais donner quelques exemples. Je vais commencer par l'hymne national avant les événements sportifs. C'est systématique, quel que soit le sport qu'on regarde à la télé ou que vous allez dans le stade. Et c'est aussi bien vrai pour les professionnels que si on va au collège, donc les universités, et même jusqu'au lycée. Nous, il y a à peu près un an, on avait assisté à un match de football américain dans un lycée local, et ça commence par l'hymne national. Et ce qui est frappant, quand on compare avec la France, c'est que c'est hyper respecté. Tout le monde se lève, la main sur le cœur, et écoute, et applaudit à la fin. J'ai souvenir de quelques événements sportifs à la télé française où c'est la Marseillaise est parfois sifflée. Donc pour ça, c'est vraiment différent et c'est ce qui me fait dire ça. Notre côté patriotique de nos amis américains, le respect pour les forces de l'ordre, les pompiers et surtout les vétérans de l'armée. Il y a plein de choses pour les vétérans de l'armée, ils bénéficient de plein d'avantages ici aux États-Unis, que ce soit dans les assurances, dans les crédits, bref, il y a toujours un truc. Il y a toujours une question. Est-ce que vous êtes un vétéran de l'armée? Parce que si vous l'êtes, et ben vous avez des avantages parce que ces gens-là sont hyper respectés pour avoir défendu l'Amérique dans certaines guerres, etc. Donc c'est un des autres exemples qui me fait dire que ouais là ils sont en tout cas plus patriotiques que ce qu'on peut voir chez nous en France. Un autre truc qu'on a, nous, aussi, dans notre quartier, dans notre ville et aux alentours, c'est les drapeaux américains sur les maisons. Donc chacun accroche son drapeau, et pas que pour le 4th of July, mais toute l'année. Et donc, du coup, ça, c'est assez typique, et c'est assez marrant. Le dernier truc qu'on a expérimenté, nous, c'est... l'allégeance au drapeau américain, donc c'est un pledge que les enfants font à l'école, surtout quand ils sont dans les premières années. Donc ma fille, elle le faisait en kindergarten. Et donc ils apprennent un petit texte qui disent qu'ils prêtent allégeance au drapeau américain. Voilà, donc pour tout ça, je pense que c'est pas complètement un cliché. Maintenant, d'un autre côté, pour terminer là-dessus, nous, on vit, en tout cas, je sens pas de pression particulière dans la vie de tous les jours quand on parle avec les voisins, les collègues et les autres parents à l'école ou les gens dans la rue. Il n'y a pas de pression patriotique. Je ressens pas les gens tous là, ouais, l'Amérique, etc. Ils sont plutôt soft ici. Après, il y a forcément, c'est tellement grand, il y a forcément d'autres états où ça doit être différent. Mais par chez nous, dans la Bay Area, donc San Francisco, c'est plutôt soft, voilà, à part les drapeaux, enfin, à part tout ce que j'ai cité, et un petit peu de poussée patriotique le 4 juillet, c'est plutôt tranquille. Donc c'est pas non plus... c'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on peut penser par moment depuis la France. Voilà.
Salut, donc moi c'est Jérémy, et je voulais savoir du coup si c'était vrai, ce cliché, que les Américains sont faux, et notamment dans l'amitié. Voilà, voilà, un bisou.
Bonjour, je m'appelle Valérie, je vis à côté de Dallas, au Texas, maintenant depuis plus de 14 ans. Je n'ai pas d'amis américains. Nous avons des copains qui viennent du Canada, qui viennent d'Asie, et nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances américaines. Alors, il faut savoir que les Américains en amitié, on n'a vraiment pas les mêmes codes. Maintenant, au bout de 14 ans, je m'y suis fait. C'est-à-dire que, par exemple, mes enfants vont à l'école, ils sont amis avec leurs enfants. Là, oui, ils vont vous contacter, ils vont vous demander des nouvelles, ils vont vous appeler pour que les enfants aient des plaidettes. Si vous avez de la chance, ils vont vous recevoir pour boire un verre chez eux. Et puis dès que soit les enfants ne sont plus ensemble, soit ils ne font plus d'activités extrascolaires ensemble, et ben là, il n'y a plus de nouvelles. J'ai vécu ça l'année dernière à cause d'un changement d'école de mes enfants. Je pensais être amie avec certaines des mamans, et puis non, j'envoie un message, j'envoie deux messages. Alors le premier message, on répond. Oui, on se retrouve telle date, tel jour pour un dîner, et puis la veille, ils annulent. Et puis ensuite, bah, plus de nouvelles. Voilà, donc l'amitié aux États-Unis, c'est assez spécial, j'en attends plus grand-chose, j'avoue. Alors maintenant, bah voilà, je parle avec beaucoup d'Américains, mais sans attente. Je les prends, s'ils m'appellent, s'ils m'envoient des messages, je suis ravie. Mais sinon, j'avoue ne plus faire beaucoup d'efforts au niveau du contact. Voilà, et il y a aussi ces personnes que vous rencontrez un jour et puis vous parlez avec eux pendant 5-10 minutes, tout se passe très bien, vous échangez vos numéros de téléphone et vous les recroisez 2-3 jours après ou au supermarché, hein, et là ils vous reconnaissent pas ou ils baissent les yeux. Ça fait toujours bizarre, j'avoue que ça m'a rendu très triste plusieurs fois, je me suis demandé si j'avais un problème. Mais non, ils sont comme ça. J'avoue ne pas l'expliquer, en fait. Maintenant, voilà, je m'y suis habituée, je relativise, et mes amis sont français, ici. Et puis, mes connaissances sont américaines, et nos copains sont d'autres pays, d'origine tout au moins d'autres pays, mais pas américains. Voilà.
Aux États-Unis, on est peu soucieux de l'environnement.
Bonjour à tous, je m'appelle Diane et je suis aux États-Unis depuis 2014. Et depuis 2016, j'habite dans une petite ville de la Louisiane rurale appelée New Roads, située au nord-est de Baton Rouge. J'aimerais répondre à ce cliché qui est malheureusement vrai là où j'habite. C'est à se demander si les gens ont même conscience des problèmes climatiques. C'est assez dramatique. Il n'y a déjà aucun programme de recyclage dans ma ville et les mentalités sont en général loin d'être dans la préservation des ressources ou la réduction de la consommation. J'ai beaucoup d'exemples, mais ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est la surutilisation de l'air conditionné. Parce que bien sûr, ici, c'est chaud et humide plus de 6 mois de l'année, donc la clim, c'est un peu indispensable. Mais les gens l'utilisent de façon démesurée. Et quand je vais chez les gens l'été, en général, il faut que je pense à prendre un pull avec moi tellement il fait froid chez eux. Et c'est tellement froid que ce n'est même plus agréable. Une autre chose qui m'a choquée, c'est le nombre de sacs plastiques donnés dans les magasins et supermarchés. Le principal supermarché près de chez moi, c'est Walmart. Et la quantité de sacs plastiques qu'ils y donnent est tout bonnement abusée. Surtout quand on prend un drive, c'est limite un sac plastique par article. Et enfin, je vais finir par une conversation qui m'a marquée que j'ai eue avec l'agent à qui je loue ma maison. Elle me disait que maintenant qu'il n'y avait plus qu'elle et son mari à la maison, ils mangeaient dans des assiettes jetables pour ne pas avoir à faire de vaisselle. Et ça confirme assez bien ma pensée qu'ici, on en est resté à privilégier le confort de vie, l'efficacité, avant de considérer l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. Merci.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maëva, j'ai 17 ans, j'habite en Bretagne. Et pour moi, l'un des clichés les plus importants est le fait que les Américains portent presque tous une arme sur eux.
Coucou, moi c'est Julie, j'ai déménagé aux États-Unis en juillet 2013, donc ça va faire un peu plus de 8 ans. J'ai commencé par la Floride, puis l'Idaho, et enfin maintenant ça fait 2 ans que je suis à Anchorage, en Alaska. Mon cliché, c'est les Américains portent tous une arme sur eux. En fait, la réponse rapide, c'est oui, il y a beaucoup d'Américains qui portent une arme sur eux et il y a en général plus d'armes qu'en France. Maintenant, c'est un peu plus nuancé que ça parce que les lois sur le port d'armes dépendent des États et il y a des États beaucoup plus stricts que d'autres. Par exemple, la Californie ou l'État de New York sont beaucoup plus stricts que l'Alaska ou le Texas ou l'Arizona. Pour porter une arme cachée, dans beaucoup d'États, il faut un permis spécial. Avec un entraînement et des cours supplémentaires. C'est pas le cas de tous les États. Par exemple, c'est pas le cas de l'Alaska. En Alaska, il n'y a pas besoin de permis. Ensuite, ça dépend du milieu dans lequel vous vous trouvez. Les gens dans les campagnes, dans le milieu rural, ont tendance à porter plus d'armes que dans les grandes villes. Et enfin, ça dépend aussi des individus. Moi, dans mon entourage, j'ai de tout. J'ai des gens qui n'ont pas du tout d'armes et qui n'ont aucun intérêt, et des Américains, hein, qui n'ont aucun intérêt à en porter. Et par contre, j'ai des gens qui en ont énormément et qui les portent sur eux en permanence. En Floride, j'ai pas tellement été confrontée aux armes. Par contre, quand j'ai déménagé dans l'Idaho, ça a été un petit choc. Je travaillais pour une compagnie familiale Et les employés avaient tendance à avoir énormément d'armes. Et donc, de temps en temps, ils les amenaient au boulot et puis ils comparaient les mérites de telle arme comparée à telle arme et pourquoi ils avaient acheté celle-là plutôt qu'une autre et quels étaient les avantages. Donc, des fois, dans la salle de conférence, il y avait des armes étalées au milieu de la table. Mon premier superviseur aux États-Unis, donc dans l'Idaho, il avait une cinquantaine d'armes. Ne me demandez pas pourquoi il avait besoin d'en avoir 50. Et du coup, il m'a amené au centre de tir et c'était un petit peu le jeu de « on va choquer la petite Frenchie ». Et donc, il m'a fait essayer tout un tas d'armes différentes pour que je puisse comparer et puis essayer de voir les mérites de l'une comparée à l'autre. En Alaska, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui chassent pour se nourrir. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent avoir une réserve de viande pour l'année et qui ne veulent pas acheter de viande au supermarché. Donc, ils ont tendance à avoir plus d'armes d'une manière générale. Il y a également des ours sur les chemins de randonnée. Et donc, il y a un gros débat entre est-ce que le bear spray ou une arme est plus efficace pour se défendre contre un ours. Et il y a beaucoup de gens qui portent une arme, en fait, en cas d'attaque d'ours. Donc, c'est pas rare sur les chemins de randonnée de voir des gens avec une arme sur la poitrine. Ça fait un petit choc au début, surtout quand on randonne toute seule. Mais on s'y habitue. Donc principalement ici en Alaska, je les vois surtout en randonnée, mais ça m'est déjà arrivé d'en voir aussi en ville pendant que je faisais mes courses. Donc voilà, j'espère que cette réponse vous aura plu. À bientôt!
Bonjour, je suis Laurence, j'habite à Tahiti et j'ai toujours trouvé que les Américains parlaient trop fort et faisaient trop de bruit.
Bonjour, je m'appelle Davina, je vis depuis 2 ans à Los Angeles, en Californie. J'ai également habité en Floride. Le cliché que j'ai reçu était que les Américains parlent trop fort et font beaucoup de bruit. Alors ma réponse n'est ni oui ni non, cela dépend de la personne et de son statut social. Ce sont plutôt les personnes très jeunes qui parlent très fort. Ils apprennent très tôt à s'exprimer et à montrer qu'ils sont importants, un peu comme les adultes. Les personnes plus âgées, c'est-à-dire plus de 60 ans, parlent avec un ton comme nous. J'ai 2 exemples très distincts qui m'ont énormément marqué. Alors, pour le premier, c'est j'ai une amie japonaise dont le fils ne savait aucun mot en anglais quand il est arrivé aux États-Unis, puis il est allé à l'école. Et quand il a bien assimilé la langue anglaise, en fait, il parlait comme les petits Américains très fort. Il montrait qu'il existait. Pour nous, en tant que Français ou Belges, cela peut paraître surprenant et peut-être agaçant, mais par ici, c'est tout à fait normal que les enfants et les ados, même les personnes, les adultes, les jeunes adultes, parlent assez fort. Alors, mon deuxième exemple est que j'ai une autre amie qui a plus de 80 ans et qui est très très jeune dans sa tête. Mais elle parle comme nous en fait. Finalement, elle parle pas d'un ton élevé. Elle a la même manière dont nous on parle. Donc voilà, je connais aussi d'autres personnes de cette tranche d'âge et ils ne parlent pas si fort. Donc finalement, ça dépend plus de la personne et du statut social, je dirais. Mais c'est vrai que la génération plus jeune a tendance à parler beaucoup plus fort que ce que nous, on pourrait. Alors, pour ce qui est du bruit, je ne trouve pas qu'ils font plus de bruit que nous, donc voilà.
Coucou Cécile. Alors moi, mon plus gros cliché des États-Unis, c'est que les Américains sont tous obèses. Voilà.
Salut. Moi, c'est Anne-Fleur. Je vis à Boston, dans le Massachusetts. C'est un des États qui est sur la côte nord-est américaine. Je suis partie de France il y a un peu plus de 10 ans. Alors pour faire simple, non, tous les Américains ne sont pas obèses. Mais oui, il y en a. Comme partout finalement. Il y a un truc dont j'avais assez peu conscience avant de venir vivre aux États-Unis, c'est à quel point c'est grand. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est un état continent. Pour vous donner une idée, la France rentrerait dans le Texas, qui est un des 50 états américains. Ou la Californie, c'est à peu près, niveau superficie, l'Italie. Bref, c'est immense. Et c'est bien plus grand qu'en Europe. Et quand on y pense, en France et en Pologne, on vit pas du tout de la même manière. On n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes traditions. Ouais, on passe pas nos quotidiens de la même manière. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'un territoire si grand, et bah c'est quasiment impossible d'en tirer de grandes généralités. Ce pays, c'est un territoire de contraste, et le mot est vraiment faible. D'ailleurs, Cécile, tu vis en Californie, moi, à 6000 km de chez toi, on vit pas exactement de la même manière. Souvent, on voit de grandes différences entre les habitants des côtes est et ouest, versus le centre du pays. Alors bien entendu, il y a toujours des exceptions, hein, mais on voit souvent que la vie dans les grandes villes, des côtes, donc je sais pas, New York, Boston, Washington, San Francisco, par exemple, c'est très citadin et assez peu sédentaire. Les gens bougent. Ils bougent au quotidien et ils déménagent aussi assez facilement. Le sport fait partie intégrante de la vie des gens. On marche beaucoup, aller faire de l'exercice tous les jours, c'est normal et attendu. Tandis que dans d'autres états, plus au centre par exemple, il y a plus d'espace. Les villes sont gigantesques avec pas autant de monde. Et il est plus difficile de marcher tout simplement parce que les villes sont pas conçues pour ça. Elles sont pas conçues pour les piétons. Les villes sont plus étalées. Le niveau de vie également, il est assez différent. Et il est vrai que ça peut coûter très cher de bien manger aux États-Unis. La vie est très chère sur les côtes. Et donc parmi plein d'autres postes de dépenses, et ben la nourriture, bien manger, équilibré, bio, etc., ça peut vite coûter très très cher. En tout cas comparativement à d'autres alternatives type fast-food qui coûtent quasiment rien. Alors j'y suis pas allée depuis un moment, mais genre manger un McDo, qui pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fast-food le plus populaire aux États-Unis, ça peut coûter, je sais pas, 2-3 dollars pour un truc, mais gigantesque. Alors quand les moyens sont limités, ben c'est pas toujours facile de faire des choix hyper équilibrés. Je pense que pour beaucoup de gens, le choix, c'est qu'est-ce qui va faire en fait que j'ai plus faim. Alors attention, je dis pas qu'il y a des obèses partout au centre des États-Unis. Non, à nouveau, c'est un pays de contraste. Et attention aux clichés qui voudraient dire que être obèse, ça veut forcément dire manger du fast-food. Et puis bah, et si on jugeait pas, c'est pas une tare finalement, non ?
Coucou Nicilla, est-ce qu'il y a vraiment des cheerleaders, des gens populaires, des geeks, etc. dans les universités, comme on pourrait voir à la télé? Merci.
Bonjour, je m'appelle Mélanie, je vis en Californie depuis mai 2015 avec mon mari, mes trois enfants, dont notre petite américaine née ici. Auparavant, j'avais étudié en 2003-2004 à Tucson, à l'université d'Arizona pour mon master. Alors, je suis là pour répondre aux clichés concernant la présence de cheerleaders, de gens populaires, de geeks sur les campus des universités. Je dirais que oui, il y en avait, mais c'est pas du tout au point de la vision qui peut être donnée dans les séries. Je pense que ça y ressemble tout de même un peu quand on est dans la partie undergrad, c'est-à-dire les étudiants qui sont en bachelor les 2-3 premières années, où là, oui, il y a les équipes de cheerleaders, les personnes, bon, les étudiants qui portent des tenues à l'effigie des équipes de sport de l'université, il y a les équipements sportifs sur le campus, bon, l'énorme stade de foot, le terrain de basket dans un gymnase magnifique. Donc, en effet, ça ressemble un peu à la vision qu'on peut avoir dans les séries, comme partout, je pense qu'il y a des gens plus populaires que d'autres, il y a des geeks. Après, une fois qu'on passe en master, en PhD, c'est assez différent parce que les étudiants sont plus âgés. Il y a des diversités de profils qui sont impressionnantes. Moi, je me suis retrouvée en cours en étant la petite jeunette du cours et avoir des gens qui étaient là, qui avaient une famille, des enfants, qui reprenaient leurs études après avoir bossé quelques années. Donc évidemment, c'est pas du tout la même ambiance dans ce genre de classe. Et là, on voit moins les cheerleaders. Bon. Il y a des geeks, hein, ça c'est sûr, quel que soit l'âge. Mais voilà, le côté plus sport, personne super populaire, la star du campus. Je pense que la vie de campus est beaucoup plus importante chez les plus jeunes que dans les dernières années où bien souvent bah, les gens bossent en labo en même temps, sont bien bien occupés à la fois par la préparation de leur diplôme et par leur boulot à côté. Donc ils sont beaucoup moins sur le campus que peuvent l'être les étudiants des premières années qui eux passent leur vie parce que de toute façon il y a tout ce qu'il faut sur le campus pour y passer un temps monstrueux. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à peu près correctement au cliché.
Coucou, moi c'est Kelly, j'ai 38 ans, j'habite dans le Var et j'ai un cliché par rapport aux Américaines. Je trouve qu'elles ont un accent. Je suis à moitié anglaise et j'ai pas du tout cet accent quand je parle. Je m'explique, je trouve qu'elles parlent avec ce qu'on dirait le vocal fry, la friture vocale. En l'occurrence, comme Kim Kardashian, Britney Spears, etc. Voilà mon cliché, les Américaines ont tout un accent très bizarre.
Moi, c'est Stéphanie, je suis expatriée à Miami depuis presque 5 ans et demi. Concernant le cliché sur le fait que les Américains ont un accent bizarre, alors moi, je dirais que je pense que ça dépend des États. C'est un peu comme en France, vous avez du coup les Français qui sont du Nord, les Ch'tis qui ont un accent particulier, comme les Marseillais qui ont un accent particulier, ou tout comme les Alsaciens qui ont un accent particulier. Et ben ici, aux États-Unis, c'est pareil. Donc vous avez des personnes qui vont avoir un accent plus ou moins prononcé en fonction des États dans lesquels ils habitent. Par exemple, au Texas, effectivement, les gens ont un fort accent. Ça dépend vraiment. Donc voilà. Après, c'est vrai que les Américains ont parlent fort et peuvent avoir du coup une sonorité un peu nasillarde.
mais je pense que c'est un peu comme partout, aussi bien en France, dans tous les pays, donc en fonction des régions dans lesquelles les gens vivent tout simplement. Voilà.
Coucou. Est-ce que c'est vrai qu'aux États-Unis, tout ce qui est lait, jus de pomme, jus de fruits, etc., c'est dans des énormes bouteilles, dans des gros bidons, comparé en France où c'est dans des toutes petites bouteilles?
Bonjour, moi c'est Lucie, j'habite en Californie depuis presque 7 ans. Ça commence à faire un petit peu longtemps, mais c'est chouette. Et je vais répondre au cliché sur la taille des bouteilles de lait et du jus d'orange. Donc oui, c'est vrai, aux États-Unis nous avons des énormes récipients pour le lait et le jus d'orange. Donc le plus souvent, ce sont, on peut appeler ça un bidon, c'est la taille d'un gallon, donc c'est presque 4 litres. Je suis allée vérifier parce que les mesures, ce n'est pas évident de s'en souvenir. Donc un gallon de lait fait 3 litres 78. Et pour le jus d'orange, j'en ai un peu plus petit qui fait 2 litres 63. Je ne me demandais pas pourquoi, ça tombe jamais pile, c'est comme ça. Bienvenue aux US, mais c'est pas grave. Et donc oui, on a toujours des grands récipients. On peut trouver aussi des contenants plus petits, on peut trouver des briques de lait qui font un peu plus d'un litre. Pareil pour le jus d'orange, mais c'est moins fréquent. C'est souvent des gros récipients. Mais ce n'est pas forcément gênant, parce que ici on a quand même des très grands frigidaires, donc ça rentre dedans. Ce qui ne serait pas le cas dans le frigo de mon appartement parisien. Mais là, c'est pas gênant. Je trouve que surtout, ce qui est embêtant, c'est que le lait ici n'est pas UHT. Donc il n'a pas été, il n'est pas monté en température pour se conserver correctement. Donc il se conserve uniquement au frigo. Et donc une fois que le gallon de lait est ouvert, il faut le consommer dans les 4-5 jours. Et puis il ne se conserve pas longtemps dans tous les cas. Après il tourne. Donc nous sommes 4 en consommer, donc ça se passe pas trop mal. Mais sinon ça peut être un petit peu compliqué. Les grands récipients par contre sont très pratiques, je trouve, pour l'eau. On a souvent des gallons d'eau dans notre garage, puisque nous vivons en Californie, où le risque de tremblement de terre est assez important, donc c'est important d'avoir un petit peu de réserve. Et du coup, avoir des gallons d'eau, ou même il y a encore des récipients qui sont encore plus grands, je sais pas combien c'est, je crois que c'est 6 litres ou un peu plus grand. Pour l'eau, c'est très pratique. Voilà, à bientôt!
Bonjour, moi c'est Fanny, j'habite à Brest, j'ai 42 ans. Et pour moi, le plus grand cliché aux États-Unis, c'est quand vous affichez le candidat pour qui vous allez voter, que ce soit dans votre jardin, sur votre voiture, le truc qui serait impossible en France. Voilà, merci, bonne journée.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je reviens d'expatriation après 7 ans en Californie. Donc actuellement, je vis un choc culturel inversé en revenant en France. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les clichés américains. Et le sujet sur lequel je vais parler, moi, c'est les Américains qui affichent leur candidat politique. Alors, effectivement, les Américains ont affiché des panneaux devant leur maison pour leur candidat. Ils vont avoir des stickers sur les voitures. Ils vont même cumuler les stickers sur les voitures. Ils vont avoir des t-shirts ou des casquettes à l'effigie. Je crois que la casquette de Donald Trump, Make America Great Again, a fait des records de vente. Il y a aussi des stands sur le marché pour vendre un candidat. Mais ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'ils l'affichent, mais ils ne vont pas en parler. On peut pas avoir vraiment de conversation politique avec quelqu'un, car les Américains ont plutôt tendance à éviter les conversations, les sujets qui fâchent, sauf vraiment avec les amis très proches où on peut éventuellement parler de politique. Et encore, c'est plutôt glisser quelques petites phrases à travers une conversation. Mais sinon, on va pas parler de politique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a une fois où il y a mon mari qui est allé voir un client et ce client s'est mis à parler de politique et de la personne pour qui il votait de manière extrême. Et je pense que derrière, il s'est fait remonter les bretelles par sa hiérarchie, parce que la fois d'après, quand mon mari est retourné voir ce même client, il s'est excusé d'avoir parlé de politique à mon mari. Voilà, donc en gros, les Américains affichent leur candidat via des choses visibles. Ils ne vont pas parler de politique, mais ils vont l'afficher. Alors, je ne sais pas si c'est plus efficace qu'une conversation, mais en tout cas, chacun va montrer ses opinions, mais pas en parler. Voilà pour ce cliché sur les Américains. Au revoir.
Bonjour, alors moi je m'appelle Thelma, j'ai 15 ans, et je voulais savoir, parce que souvent quand on décrit les USA, c'est on y trouve beaucoup, beaucoup de fast-food, tout que voilà le cliché que j'ai sur les USA.
Hello tout le monde, moi c'est Mélodie, j'ai 30 ans et je vis en Californie depuis 2014, à Sunnyvale, dans la Silicon Valley, avec mon mari et nos deux enfants. Je vais répondre au cliché de Thelma qui dit qu'on trouve beaucoup de fast-food aux États-Unis. Alors, non, selon moi, il n'y a pas tant de fast-food que ça ici. Bien sûr, je parle dans ma région, dans mon coin, car ici, aux États-Unis, d'un état à un autre, ça peut être très différent. Donc, je précise que c'est vraiment ce que moi, je connais. Bien sûr, tu vas facilement trouver les classiques comme McDo, Burger King, Five Guys, ou bien Subway. Il y a aussi Jack in the Box, Carl Jr. Il y en a des plus régionaux chez nous ici, comme In-N-Out. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas et que vous venez en Californie, je vous le conseille absolument. Il faut tester si vous aimez les burgers. Alors, oui, des fast-foods, il y en a. Si vous cherchez un fast-food, vous en trouverez facilement. Mais d'une manière générale, déjà, je pense qu'ici, les gens ne sont pas si fans que ça. Je pense notamment à McDo et Burger King. Moi, j'adorais ça en France, mais ici, c'est pas du tout pareil. C'est pas si populaire et c'est beaucoup moins sympa qu'en France. En France, les McDo se modernisent vachement, par exemple, et ils ont des menus super variés, mais ici, pas du tout. Après, il y a pas mal de fast-food ici qui ont de la viande et des aliments frais. Et franchement, ça, c'est bien. C'est aussi le cas pour tous les restaurants d'une manière générale. Peu importe la gamme, ils aiment le fait maison et ils te servent facilement du fait maison. Dans la baie, d'une manière générale, il y a beaucoup, beaucoup de restos. Pas que des fast-foods. Et il y a aussi toutes les gammes. Tu trouves des fast-foods, des milieux de gamme. Et aussi, dans notre région, il y a des restaurants étoilés Michelin, par exemple. Faut savoir que les gens ici, ils adorent manger au restaurant. Ils y mangent très, très souvent. Et les restaurants te servent à emporter et c'est super pratique. Tu peux aussi trouver de tout, toutes sortes de restos, toutes les cultures, tout ce que tu peux imaginer manger, tu vas le trouver. Si tu veux manger thaï, indien, chinois, japonais, américain, coréen, mexicain, italien, méditerranéen, même français, tu peux. Et d'ailleurs, j'en oublie sans doute d'autres. Aussi, les fast-food, l'avantage qu'ils ont comparé à tous ces restos, c'est que tu les remarques facilement, ils ont des enseignes super voyantes, qui se voient bien, mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup plus de restaurants divers et variés que de fast-food. En tout cas, voilà ma réponse à propos des fast-food en Californie et dans mon coin en particulier.
Je pense que mon plus gros cliché sur les Américains, c'est soit tout, soit rien au niveau de la nourriture. Par exemple, sur Instagram, on voit les filles ultra healthy à fond. Mais aussi, on a ce gros cliché du hamburger à tous les repas ou de la nourriture frite. Comme tu.
Bonjour, alors je suis Aurélie. Je vis depuis un peu plus de 6 ans dans la baie de San Francisco, donc en Californie. Alors, est-ce que je dois dire que je suis assez d'accord avec Lisa? C'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir un peu des extrêmes ici en termes de nourriture aux États-Unis. On va pas se mentir, la base de l'alimentation ici, ça reste le burger, tout ce qui est la pomme de terre sous toutes ses formes et beaucoup les fritures. Donc ça, c'est clair qu'on le voit encore beaucoup ici. Dès qu'on se déplace, quand on va visiter d'autres endroits aux États-Unis, on a du mal à trouver justement autre chose à manger au restaurant que ces burgers, ces frites et ces fritures. Par contre, nous, dans la baie de San Francisco, je pense en Californie, En général, il y a quand même de plus en plus de personnes qui font attention à ce qu'ils mangent, donc on retrouve de la nourriture plus saine. Voilà, les salades, on rigole aussi beaucoup des Californiens avec leur toast d'avocat, et c'est pas un mythe, on en trouve partout. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un peu un rejet de cette nourriture-là pour certains qui vont plutôt sur des choses très, très saines. Après, nous, on a cette chance dans la baie de San Francisco qu'il y ait énormément de personnes qui viennent du monde entier. Et donc, on retrouve cette cuisine aussi qui vient de partout. Donc, on a plus de choix où il y a de l'entre-deux, c'est-à-dire un peu comme en France, où on va avoir un meilleur respect entre les protéines, les féculents, les légumes, les fruits. Donc ça, on le trouve quand même. Mais je pense que c'est un peu propre à notre région, où on va avoir beaucoup de restaurants chinois, coréens, japonais, des restaurants européens aussi. Donc voilà, je suis assez d'accord avec Lisa.
Alors bonjour, moi c'est Léa, j'ai 16 ans et j'habite dans le sud-ouest de la France. Et pour moi, un des clichés des Américains, c'est qu'ils adorent la malbouffe, mais genre vraiment beaucoup.
Alors moi c'est Myrtille, je vous parle depuis le Texas, ça va faire 4 ans et demi que je suis expatriée aux États-Unis. On a été 3 ans en Oklahoma et maintenant ça va faire 1 an et demi qu'avec mon mari américain et mes deux petites filles, on est à Houston au Texas. Pour ce qui est du cliché que les Américains adorent la malbouffe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus. La réponse est oui, oui et re-oui. C'est vrai qu'ils ont cette culture de la malbouffe qui est là depuis des générations. Je pense que ça fait des décennies que c'est ancré en fait dans leur gène. Moi, ce qui me choque le plus, pour avoir notamment une belle famille américaine et pour avoir du coup ma famille en France, c'est vrai que les générations anciennes, que ce soit les grands-parents ou nos parents, ils ont vraiment déjà cette culture de la malbouffe. En fait, c'est hyper flagrant. Par exemple, des souvenirs que mes beaux-parents vont évoquer, ça va être du poulet frit quand ils avaient 6 ans et que mamie elle faisait à manger ou que mamie les emmenait au restaurant, c'était ça. Alors que moi, si je demande à mes parents ce qu'ils ont comme souvenir en tant qu'enfant, eux ils vont me sortir, je sais pas, un pot-au-feu, un bon couscous ou un bœuf bourguignon, enfin des choses qui sont quand même un peu plus élaborées avec des produits frais. Ici, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de fast-food. Alors, c'est vrai qu'il y a un choix incommensurable de fast-food. C'est pratique, c'est facile, c'est surtout moins cher. Et aussi, peut-être pour leur excuse à eux, je pense aussi qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper, en plus de faire à manger, de cuisiner des produits, de prendre du temps pour manger. C'est vrai que les Américains mangent très vite. Et en plus de ça, voilà, ils travaillent beaucoup, ils ont très peu de vacances, donc voilà, ils passent peu de temps en cuisine. Même si je dois dire que ça fait quand même quelques temps que j'observe ça, que notre génération à nous, enfin les nouveaux parents ou les parents actuels, c'est vrai qu'ils commencent à faire attention un peu à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment. Mais c'est pas encore ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile de proposer des légumes ou pour eux c'est assez exotique, faire découvrir un navet à une personne de 70 ans, moi j'avais jamais vu ça, quoi. Ma grand-mère, si je lui dis je sais pas ce que c'est un navet, je veux pas goûter, elle m'aurait dit mais c'est pas comme ça que ça marche, ici on mange de tout. Non, ici c'est on va dire que ça se concentre à tout ce qui est frit, à beaucoup beaucoup de choses frites. Si on vous parle de fruits de mer, notamment dans les États du Sud, ça va être que du frit. Les huîtres sont frites, enfin tout est frit. Donc voilà, c'est vrai que pour ça, tout est vrai.
Hello, je m'appelle Adriana, j'ai 19 ans et je suis originaire de Lyon en France. Un des plus gros clichés que j'ai sur les Américains, je pense que c'est vraiment le côté persévérant, travailleur, qui se donne toujours à fond pour réussir ce qu'il veut entreprendre, quoi.
Bonjour, je m'appelle Lucille, je suis expatriée dans le Colorado depuis 9 ans. Je voulais revenir sur le cliché que les Américains sont travailleurs et se donnent les moyens. Alors je pense que cette culture du travail existe depuis le plus jeune âge. Il n'est pas rare de voir des jeunes livrer des journaux, faire l'entretien des jardins des voisins, faire du babysitting ou même emballer vos courses au supermarché. Ensuite, il y a très peu d'aide du gouvernement aux États-Unis. Donc les gens sont très régulièrement livrés à eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins de leur famille, payer leurs frais de scolarité, payer les gardes d'enfants qui sont très chers. Et donc, il n'est pas rare de voir des gens dans la vie active travailler deux, voire à trois jobs par jour. Également, les études ont un coût très élevé aux États-Unis. Donc, beaucoup d'étudiants ont un side job pour pouvoir subvenir aux frais de leur scolarité. Ensuite, une fois dans la vie active, il faut rembourser les student loans, c'est-à-dire les frais de scolarité qu'ils ont engendrés. Donc, il faut encore travailler et toujours travailler plus. Ensuite, j'ai toujours trouvé les Américains très persévérants. Par exemple, s'ils n'ont pas pu terminer leurs études pour des raisons diverses et variées, il n'est pas rare de les voir reprendre les études après avoir eu des enfants, après avoir économisé pendant plusieurs années. Donc ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'après le travail, ils font les cours du soir. Aux États-Unis, il y a également le sujet de la retraite. Alors, il faut être très prévoyant avec sa retraite tout au long de sa carrière. Sinon, vous pouvez vous retrouver à travailler jusqu'à un âge très certain. Il n'est pas rare aux États-Unis de voir des gens d'un âge très avancé travailler dans les supermarchés, travailler à la poste. Et franchement, c'est difficile à voir. Enfin, aux États-Unis, le travail est toujours récompensé. Donc, il faut toujours travailler plus pour gagner plus.
Aux États-Unis, tout paraît démesuré.
Bonjour à toutes. Je m'appelle Justine, j'ai 31 ans et j'habite à Denver dans le Colorado. Ça fera 7 ans au mois de janvier que je suis aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais répondre au cliché de Delphine qui nous dit que tout est démesuré. Et en fait, oui, je suis d'accord. Même après quasiment 7 ans ici, tout est vraiment grand et juste immense, quoi. En passant par les centres commerciaux ou le gallon de lait, les portions de nourriture dans les restaurants, tout est vraiment immense. Et merci à Cécile de nous faire partager ce podcast.
Alors, coucou, moi c'est Fleur et je viens de Paris. Alors, mon cliché était que les Américains sont très, mais très centrés sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils en savent peu sur le monde qui l'entoure ou alors sur les différentes cultures au-delà des États-Unis. Ils sont, c'est-à-dire que tout, par exemple, je donne un exemple, tout ce que eux ont aux États-Unis, bah, ils pensent que le monde ont comme eux. Enfin, voilà.
Bonjour, moi c'est Nancy, je suis québécoise et maintenant expatriée en Californie depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Et le cliché auquel je vais répondre, c'est celui, le fait que les Américains sont centrés sur eux-mêmes et connaissent très peu de ce qui les entoure. Donc pour moi, ce cliché est quand même assez vrai. Par exemple, lorsque on explique qu'on est québécois ou qu'on vient du Québec, les gens savent très peu c'est où, même à la limite, des fois, savent même pas de quoi on parle. Donc, faut expliquer qu'on est canadien, qu'on est francophone et le Québec, c'est une province qui est sur la côte Est. Les Américains, ayant un très grand pays, si tu es sur la côte ouest comme en Californie, savent très peu ce qui se passe sur la côte Est. Donc, ne connaissent pas trop les régions qui sont sur la côte Est, donc dans le East Coast. Je pense que oui, c'est un peu sans être par manque de culture, c'est un peu par manque d'intérêt. Ils s'occupent de ce qui se passe dans leur pays, mais pas ce qui se passe dans le reste du monde. C'est comme les États-Unis, tout tourne autour des États-Unis. Je pense que c'est un peu cette raison pourquoi nous, au Canada et dans les autres pays du monde, on voit les nouvelles des États-Unis assez rapidement. Par contre, eux ne le voient beaucoup moins, à part quand c'est quelque chose de vraiment très gros. C'est ça, je pense que c'est plus par manque d'intérêt manque de culture qu'ils sont plus centrés sur eux-mêmes. C'est plus relié à que le monde tourne autour des États-Unis, donc ça tourne autour de eux et pas autour du restant du monde. Donc voilà, merci.
Salut, moi c'est Louane, et le cliché que je pense avoir sur les Américains, c'est que vous avez tous des grandes maisons. Même les appartements, ils sont grands.
Coucou, c'est Nicolas, aka le mari de Nicila. Ça fait 7 ans qu'on est en Californie maintenant. Donc il y avait une question, un préjugé, est-ce que tous les Américains ont des super grosses baraques et des super gros appartements? Je pense que c'est un cliché, peut-être qu'on voit pas mal dans les films, mais en fait c'est comme dans n'importe quel pays, il y a des gens, ils ont vachement de sous, ils ont une super maison, un super appart, et il y a des gens qui peuvent pas nécessairement se le permettre, ou qui habitent en ville, enfin genre prends New York par exemple. New York, je pense que 90% des gens vivent dans un placard à balai sur l'île de Manhattan parce que tout coûte une bombe atomique. J'ai rencontré des copains qui habitent là-bas, qui étaient... là-bas en premier job et qui sont là encore après avec des familles, dans des villes, San Francisco, New York, et puis Paris dans une certaine mesure, parce que l'immobilier flambe, en fait, la surface, le mètre carré, en fait, coûte ultra cher. Quand on se retrouve au milieu de nulle part, au fin fond du Texas, en Oregon, en Arizona, donc là, excentré des villes, là où le mètre carré est moins cher, là, en fait, on peut se payer des hectares. Pour beaucoup moins cher. Donc c'est un cliché et la réponse c'est du coup ça dépend vraiment et ça varie ça dépend où habitent les gens.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la vie aux USA, même si, je le rappelle, les expériences sont vraiment différentes. Moi, je sais que, par exemple, le cliché sur la pollution, ici, ça se passe pas du tout comme ça. On paye nos sacs au supermarché 10 centimes. San Francisco tend à être une ville zéro déchet. On recycle, on est obligé de recycler. Il y a même des villes dans le coin qui compostent. Enfin, voilà, les armes, j'en ai jamais vu une seule en Californie, dans la Silicon Valley. La seule fois où j'ai vu quelqu'un avec une arme, c'était dans un parc national du Nouveau-Mexique, sinon j'en ai jamais vu. Enfin, c'est hyper intéressant, même moi ça m'a appris énormément de choses et je me rends compte qu'en fait on a beau toutes vivre aux États-Unis, en fait on n'a pas du tout, on vit pas la même chose et c'est hyper enrichissant. Et je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont envoyé les clichés et à tous les expats qui ont répondu présent pour y répondre. J'ai un autre épisode un peu sur le thème de l'expatriation qui arrive, qui va être aussi tout intéressant. Mais en attendant, je vous laisse peut-être sur d'autres épisodes qui parleront d'autres choses. Je ne sais pas encore quel sera le prochain épisode. Mais voilà, je vous remercie en tout cas encore une fois. Désolée pour la longueur, mais c'était trop intéressant, je ne pouvais pas couper. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous.
Cesse.
Raconte ça.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.